Ben, il y en avait tellement déjà. Il y a tellement, tellement de témoignages. Ce qu'on a vraiment voulu faire ici au musée, c'est dégager des grandes thématiques. Donc d'abord, le début de la guerre, son engagement, et puis tout ce qui avait attrait à l'uniforme, puis à la photographie, puis aux mitrailleuses, etc. Donc ce sont les grandes thématiques de l'exposition qui ont délimité les photos qui étaient gardées. Et puis à côté de ça, il y a des coups de cœur, parce qu'il y a des choses que quand on les voit, ça provoque vraiment une émotion, et on se dit, mais ça, il faut qu'elle soit exposée. Celle-là, il faut qu'on la voit.
Parlons de celle-là.
Celle-là, oui, ben, c'est les scènes, personnellement moi-même,
oui.
Ce qui me touche plus particulièrement, ce sont les photos vraiment de la vie quotidienne. Ouais. Ce sont par exemple ces photos où on les voit en train de peler des pommes de terre, en train de recevoir du courrier, d'attendre du courrier. Ce sont ces petits moments comme ça, ces instants-là, où quand on les voit avoir quelques instants de répit et aller se baigner dans une rivière. Voilà, c'est le fait d'être vraiment au quotidien avec le soldat qui est touchant, parce que ben, des photos de gens se tirant dessus, d'automitrailleuses, etc. On en voit souvent, on en voit dans les livres d'histoire. Voilà, des photos de soldats fumant une cigarette dans une tranchée en attendant l'attaque. Ben, ça, c'est plus rare, quoi. C'est beaucoup plus personnel. Donc, c'est ces photos-là qui sont plus touchantes, souvent pour les visiteurs et en tout cas pour moi.
On diffuse pour le moment sur la RTB, mais on le diffuse sur d'autres chaînes de télévision, un remontage fait d'images d'archives sur la Deuxième Guerre mondiale. L'émission s'appelle Apocalypse. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose sur la guerre 14-18, ou est-ce que les documents ne sont pas suffisamment riches ou diversifiés pour le faire?
On a des documents qui sont présentés ici dans l'exposition, donc il y a des films qu'on peut voir dans l'exposition, donc ça existe. Maintenant, c'est souvent moins parlant. C'est vrai qu'au niveau de la qualité, il y a déjà une grosse différence, hein. Il y a quand même un demi-siècle entre les deux, un demi-siècle d'évolution des techniques. Et puis, on sait aujourd'hui que filmer vraiment sur le front à l'époque, c'était difficile, et que des vidéos qui étaient présentées à l'époque étaient des reconstitutions. On reconstituait une attaque de tranchées, etc., mais c'était pas forcément... Donc, on sait voir la différence, hein, mais il y avait plus de mise en scène à l'époque et moins d'authenticité pendant la Première Guerre et la Deuxième au niveau des documents vidéo. Que la photographie, ce qu'on remarque dans la photographie aussi d'ailleurs, hein. Il y a des moments où on pose, ça c'est certain, il y a des ruines qui sont disposées pour être un petit peu plus esthétiques, ça c'est normal, mais ça se voit avec le regard d'aujourd'hui, ça se voit.
Par contre, ce petit appareil photographique, le petit Kodak du soldat, là ça permettait d'être sur place et de faire des photos dans des conditions où il n'était pas nécessaire de reconstituer un décor, c'était des photos prises sur le vif.
C'est ça, oui, c'était vraiment l'idée d'instantané, ce sont les premières photos les plus spontanées qu'on ait. Il y avait déjà des peintres de guerre, on engageait des peintres, il y a quelques toiles ici qui sont exposées et qui montrent ce que pouvaient faire ces artistes de guerre, mais voilà, faire une peinture avec le temps que ça prend et prendre une photo, l'acte est posé est tout à fait différent au niveau du témoignage.
Nous sommes ici dans l'infirmerie. Racontez-nous, un mannequin est allongé, blessé à l'œil. C'est Gustave Groslot ?
Mais oui, c'est Gustave Groslot. Il n'a pas eu de blessure très très grave, mais il a quand même été deux fois assez bien touché. Et voilà, l'épisode qui est évoqué ici, c'est sa blessure à l'œil. Donc qu'est-ce qui se passe ? On lui demande de nettoyer le chemin, de ramasser les débris. Il prend une grenade en main et il a un éclair, il se dit, il faut que je la lâche. Il a un mauvais pressentiment, mais le temps qu'il la lâche, elle explose trop près de sa main. Et donc, il va perdre le pouce et une partie d'un autre doigt. Et il a un éclat qui ne lui rendra jamais la vue à l'œil droit. Donc, il a été soigné, il a été bien soigné, avec des méthodes que cependant, on n'utiliserait plus aujourd'hui. Et notamment, il décrit dans son carnet la manière dont on lui fait couler au goutte à goutte dans sa main de l'eau de Javel pour désinfecter sa plaie. Donc, il parle de plusieurs traitements comme ça qui sont parfois beaucoup plus douloureux que la blessure elle-même, même si tous les historiens sont d'accord pour dire que la Première Guerre mondiale, c'est une époque de grande, grande avancée dans la médecine, grâce, malheureusement, mais grâce à la guerre. On va progresser dans tout ce qui est prothèse, dans tout ce qui est amputation. On va développer la chirurgie plastique pour réparer les visages de ceux qu'on va appeler les gueules cassées. On va améliorer aussi les systèmes des radios, là, les rayons X, ça se développe. Marie Curie, c'est la même époque. Et puis, on va aussi améliorer l'aide en premier secours, les tout premiers soins. En Belgique, en fait, la Croix-Rouge va s'organiser pour pouvoir être sur place tout de de suite. Dès qu'il y a un problème, on peut prendre le soldat en charge tout de suite au lieu de devoir l'évacuer à l'arrière, comme c'était parfois fait. Donc en Belgique, on prend ce pli-là. Donc on va faire des infirmeries mobiles. Et c'est ça qu'on a voulu montrer ici. Quasiment tout le matériel de l'infirmerie tient dans la grosse malle qui se trouve là, qui se déplie avec des gros tiroirs. Et dedans, mais il y a des bandages, il y a les produits de première nécessité. Donc de quoi soigner quelqu'un très vite. Et l'idée, c'est vraiment ça. On va faire une Croix-Rouge qui est mobile et qui permet de venir très vite en aide aux soldats. C'est le docteur Depage qui va organiser ça. Qui va être très connu d'ailleurs pour avoir vraiment aidé à sauver la vie de nombreux soldats belges pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, on est en plein là-dedans. On est à la panne. L'hôpital s'appelle l'hôpital de l'océan parce qu'il est dans l'hôtel de l'océan à la panne. Gustave Rollot va y passer, quoi. Donc il va nous en parler aussi.
Ah oui, alors les rapports avec les infirmières, là c'était une des rêveries auxquelles les soldats blessés pouvaient un peu s'abandonner comme un peu de lumière dans tout ce noir.
Oui, alors les soldats ne cherchent pas forcément à être blessés, mais il y en a qui essayent parfois de le provoquer, parce qu'être à l'arrière et être à l'infirmerie, c'est beaucoup plus confortable que d'être sur le front. Donc les soldats cherchaient ce qu'on appelait la fine blessure. C'est la blessure qui est juste assez grave pour ne plus devoir se battre, mais pas trop grave que pour être handicapé à vie. Donc il y a eu des films qui ont été tournés là-dessus.
Parfois ils se blessaient, ils s'automutilaient eux-mêmes.
Ils se mutilaient eux-mêmes, ou donc ça a existé. On en a des témoignages, mais c'est vrai que la vie de quelqu'un qui est à l'hôpital est un petit peu meilleure que celui qui est au front. Gustave Rollot, quand il part de Houdin, il a une fiancée qui s'appelle Nelly. Au départ, il dit qu'il lui dédie ses carnets. Plus tard, quand on voit les détails qu'il raconte sur ses rencontres avec d'autres femmes, on pense qu'il ne lui dédie plus ses carnets. Il a un petit peu changé d'avis. Et on sait qu'il ne va pas l'épouser. On ne sait pas pourquoi, mais quand il rentre après la guerre, il ne va jamais épouser Nelly. Mais il raconte, entre autres, que pendant qu'il est convalescent, il va sympathiser avec des jeunes filles de la région qui viennent rendre visite aux blessés. Et il y a quelques détails aussi dans ce domaine-là.
Alors les soldats écrivaient beaucoup, les lettres pour elles, pouvoir écrire, c'était quelque chose de très important pour le moral.
C'est essentiel, tout tourne autour de ça. Les deux choses dont Gustave Rollot nous parle presque tout le temps, c'est est-ce qu'il a eu assez à manger, est-ce qu'il a reçu du courrier. C'est ce qui le préoccupe le plus, c'est le seul lien avec l'arrière. Hein. Quand on explique ça aux groupes d'enfants ou d'adolescents qu'on a aujourd'hui, mais avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, on leur dit mais il fallait plusieurs semaines pour que le courrier arrive, et encore on n'est pas sûr, parce que parfois on ne trouve pas le soldat, il n'est plus à l'endroit où il devait être. Parfois, les lettres sont interceptées par les Allemands, puisque dès les premiers jours de la guerre, la Belgique est entièrement occupée par l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui détient la poste. Donc, elle ne va pas faire d'efforts supplémentaires pour distribuer les courriers des soldats belges. Donc, il va y avoir des réseaux clandestins de courriers qui vont s'établir. D'abord, des réseaux payants, puis des gens vont être offusqués par ce système. Il va y avoir des réseaux de distribution du courrier clandestin gratuits. Donc, des résistants qui vont s'organiser pour faire ça. Et il y a quelques témoignages ici de courriers qui ont été reçus ou envoyés par des soldats. Alors, il y a les jolies petites cartes brodées, hein, que les femmes brodaient avec des pensées, puisqu'on envoie des pensées à son soldat, on pense à lui.
Il y a aussi les marraines de guerre qui écrivaient.
Oui, les marraines de guerre, oui. On évoque aussi ça dans l'exposition, puisque Gustave Rollot avait une marraine de guerre. Ce sont donc ces femmes qui décident d'écrire à des soldats, qui n'ont pas forcément de famille, qui décident de les soutenir pour qu'ils aient un interlocuteur dans le courrier et leur envoyer parfois du soutien, ou voir un petit pull, ou des choses comme ça. Pour les gâter. Gustave Rollot va avoir une marraine de guerre. Ça va beaucoup l'aider, parce qu'il se plaint toujours de ne jamais avoir assez de courrier. On ne sait pas quelle est la proportion de courrier qui n'arrivait pas, mais il trouve toujours qu'il n'en a pas assez.
Alors dans les lettres, qu'est-ce que vous avez lu qui vous a particulièrement touché ?
Mais il y en a une ici qui est particulièrement touchante. Et déjà, elle n'obéit pas aux règles de l'époque, parce que donc les lettres étaient majoritairement censurées. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire dans une lettre ? On ne peut pas dire où on se trouve, et on ne peut pas dire que ça va trop mal. C'est comme pour les photographies. On ne peut pas commencer à dire à sa famille, je vais mourir, cette guerre est un massacre. On ne peut pas se permettre de dire ça. Donc il y a une censure qui passe sur les lettres, et puis il y en a qui passent outre comme ça, et c'est notamment le cas de la lettre qui est là.
On va s'approcher, vous allez nous la lire.
Alors je serais même un petit peu en peine de la lire parce que le soldat qui a écrit ça a une orthographe particulièrement originale.
Mais une très belle calligraphie par contre, on dirait une lettre du XVIIe siècle. Hein.
Voilà, il écrit très très bien, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas été énormément à l'école, mais qui écrit une lettre mais émouvante. Enfin, la plupart des visiteurs qui la lisent ont les larmes aux yeux parce que c'est vraiment quelque chose de terrible. Il écrit à sa... Il met à ma chère et bien-aimée Zoé et à, sa, et à leur petite fille. Il écrit à son épouse et il lui dit... Voilà, je suis dans un endroit où les balles sifflent, où les bombes tombent et je ne vais pas revenir. Je sens que je vais mourir, c'est pas possible que je m'en sorte, cette guerre est vraiment trop atroce. Et il lui dit, écoute, voilà, c'est mon testament. Les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés avec toi. On était insouciants, on était heureux, etc. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Remarie-toi. Tu es jeune, tu as une petite fille. Reprends quelqu'un d'autre, je te le redonne. Voilà, c'est ma dernière volonté. Il lui écrit ça. Il lui envoie, hein, alors il envoie toutes sortes des baisers suprêmes. Enfin, il a toutes sortes d'expressions assez amusantes comme ça. Et il dit au revoir. Il dit, voilà, je meurs pour la patrie. Dis-le à ma famille, c'est fini. Tu n'auras plus de nouvelles de moi. Et ça pourrait être juste atrocement triste, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sait ce qui s'est passé après. Et en fait, il est revenu. Il est revenu de la guerre. Et quand il est revenu, là, le suspense est total, mais...
Sa femme s'était remariée.
Non, Zoé ne s'était pas remariée. Elle l'avait attendu et ils ont encore vécu ensemble de nombreuses années.
Oh, voilà. C'est presque une histoire de Hollywood, mais c'est une vraie histoire. On va quand même lire le début. À ma chère et bien-aimée Zoé et enfant, me trouvant dans un petit bois... où mon ami Léon entre en grand duel... Non.
En grand duel d'artillerie.
Nous sommes sous les pluies des projectiles au grand danger. En grand danger. Alors, en grand danger, c'est A-N-G-R-A-N-D, puis D'A-N-G-E-R. Je me mets de suite à t'écrire pour te faire savoir enfin, chère Zoé, mon testament, car je crois que jamais plus j'en sortirai. Zoé, depuis 4 ans, nous étions amis, la vie...
Hélas.
Pour la vie, mais hélas, chère Zoé, tu ne devais pas me conserver longtemps, car de la situation où je me trouve, jamais plus je ne m'en sortirai, chère Zoé, tellement que s'entendent des sifflements aux alentours de moi, Zoé.
C'est phonétique à certains endroits.
Ah oui, non, il faut lire phonétiquement. Depuis 4 ans que nous avons passé ensemble un beau séjour, un séjour... Mélanger des beaux jours et des tristes, les tristes Zoé. Vous devez les oublier, mais les beaux, jamais, chère Zoé. Pardonnez-moi si je vous ai quelquefois fait des petites peines, car nous étions jeunes tous les deux, vifs et courageux. Maintenant, ma chère Zoé, tu peux encore reprendre un autre mari, mais un mari comme ton chéri, Alfred. Tu garderas toujours bien mon souvenir. Je te remets là sous la garde de ma petite chérie. Alfreda. Alfreda qui est trop jeune encore, qui est leur petite fille, sans doute, et l'enfant. Oui. Alfreda qui est trop jeune encore pour jeter des larmes pour son vaillant père. Un père qui se voit...
Mourir
pour sa chère patrie, pour reconquérir son pays pris par les boches, les bandits. Zoé, je crois que jamais plus je ne pourrai te donner mes charmants baisers. Oui, je t'en donne encore, mais ce n'est plus des baisers d'amour, ce sont des baisers suprêmes. Toi, chère adorée, femme et jeune et jolie, pourquoi ne pas reprendre un autre que moi? Mais prends garde à ma petite chérie, mon seul amour. C'est ma petite Alfreda, mon enfant. Zoé, le danger s'aggrave. Je sens la mort qui va me frapper. Zoé, ma vie est très courte. Oui, mon espoir est perdu, Zoé. Je me vois mourir, Zoé, mais c'est pour la patrie, pour reconquérir notre cher morceau de bonne terre qui nous appartient encore. Mais je n'aurai jamais plus le bonheur de revoir Binche. Non, jamais plus. Ma chère Zoé, tu rappelleras à ma petite chérie adorée, Alfreda, qui a été son père. Et toi, chère Zoé, au revoir en t'attendant. Dans les hauts des cieux, de te revoir, je t'envoie mon idéal baiser suprême. Au revoir, ma chère Zoé, au revoir, ma petite Alfreda, au revoir, toute la famille. Je meurs pour la patrie, Zoé, mon baiser d'adieu, mon baiser suprême. Adieu, la famille. Ton mari, Alfred, te Caris, Binche, Hainaut. Ah non, c'est très très émouvant. C'est un peu la chanson d'Aragon, un des poèmes d'Aragon.
Oui.
Ni marie-toi, sois heureuse.
Oui, c'est vrai, mais on a beaucoup de témoignages comme ça. Alors, il y a beaucoup de compilations qui ont été faites de ces lettres, ça existe, et notamment les lettres qui ont été écrites à des enfants. Que les soldats écrivaient à leur petit garçon, à leur petite fille. Il y a des choses qui sont très très dures à lire, et puis il y a des choses qui nous permettent vraiment de nous rendre compte que beaucoup de soldats sont avant tout des chefs de famille en exil, et donc prennent les décisions pour la famille de là où ils sont. Donc ils écrivent à leur fils tu m'as dit que tu avais eu un beau bulletin, j'ai reçu une lettre de maman, c'est pas vrai du tout, tes notes feraient rougir un âne, c'est pas parce que je suis au front que je ne peux pas te punir, à partir de maintenant, tu dois mieux obéir, tu dois mieux travailler à l'école, etc. Comme on voit dans le film Allons dimanche de fiançailles, où il donne des conseils à son épouse sur ce qu'elle doit semer et comment elle doit s'occuper de la ferme. Donc, il y a cette idée aussi de garder le contact au quotidien pour pouvoir transmettre les informations importantes. Et puis voilà, il y a des choses comme ça qui ne peuvent faire que nous émouvoir. Heureusement pour celle-là qu'on connaît la suite, parce que sinon c'est très dur. C'est très très dur à lire. Ouais.
Les feuilles de papier, la manière dont on écrit en occupant toute la place sur les cartes, sur les notes.
Celle-là, elle est assez intéressante aussi. Hein. C'est un très beau document. Donc, c'est une lettre manuscrite qui était lue et relue, hein, repliée de nombreuses fois. Et en fait, c'est une drôle d'histoire. Elle a été lancée d'un dirigeable anglais qui passait au-dessus de la Louvière pendant la nuit. Donc c'était un réseau clandestin de distribution du courrier. Et donc cette lettre a été jetée du dirigeable et dessus il était mis qu'elle était destinée au bourgmestre de la Louvière. Donc les gens la portent au bourgmestre de la Louvière et dans la lettre, qu'est-ce qu'il est écrit ? Il est mis « Tenez bon, on arrive ». Elle est tombée dans la nuit du 29 au 30 septembre, on n'est pas loin du 11 novembre. Hein.
Et donc, 1918.
Voilà. Tenez bon, les Alliés vont arriver, on va libérer la ville, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Et surtout, ne vous faites pas remarquer, n'essayez pas de vous rebeller contre l'autorité allemande, restez calme, ça ne vaut pas la peine de sacrifier des gens maintenant, c'est presque fini, la guerre est presque finie. Et c'est ce document exceptionnel qui est explosé.
Et qui a signé ce document, qui avait envoyé ça? Ce sont des. Les soldats qui étaient dans le dirigeable.
Ce sont des généraux qui ont voulu adresser ça à l'arrière parce que il y avait toujours ce problème de la région occupée. Les gens qui vivaient en Belgique, ils n'étaient pas en guerre au quotidien. Les gens ici de la région du centre, mais ils vivaient l'occupation en permanence. Donc il y avait des rébellions, il y avait de la résistance et on encourageait vraiment la population à se tenir tranquille parce que ça ne valait pas la peine d'énerver les Allemands comme ça sans raison et de risquer d'avoir des représailles sur les populations. Donc c'était vraiment un des conseils, c'était tenez-vous tranquille. On a plusieurs affiches de propagande exposées là derrière aussi qui témoignent de la même chose. Ne provoquez pas les Allemands, ils sont plus forts.
Au début de cette visite, vous m'avez confié que le souvenir que vous aviez de la Première Guerre mondiale venait de vos arrière-grands-parents et grands-parents. Est-ce qu'en travaillant sur cette exposition, des souvenirs de ce qu'ils vous avaient raconté vous sont revenus ?
Oui, tout à fait. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment le cas pour beaucoup de visiteurs. Parce que de nombreux visiteurs, les couples de visiteurs qu'on voyait le plus dans l'exposition, c'était des personnes âgées avec des petits-enfants. Ouais. Donc ça a vraiment réactivé tout un dialogue là-dessus. Et voilà, j'ai pu confronter, par exemple, il y avait le souvenir de mon arrière-grand-mère qui racontait qu'elle avait vu passer les Allemands dans son village et qu'il y en avait tellement que du lever du jour au coucher du soleil, on a vu défiler des Allemands sans arrêt, tellement ils étaient nombreux, et que le casque à pointe les avait particulièrement impressionnés. Eh bien, ce témoignage en disant le casque à pointe est un objet impressionnant qui reste dans les mémoires, on le retrouve partout, et les Allemands jouaient là-dessus aussi, c'est pas pour rien qu'ils portaient un casque à pointe. Oui, donc c'était une question de faire impression, de la propagande, et c'est vraiment l'effet que ça a fait sur mon arrière-grand-mère à l'époque. Donc voilà, une histoire qui s'est raccrochée ici quand on a recommencé à lire toutes sortes de documents. Oui, ce témoignage-là, il m'est revenu à l'esprit aussi. Il y a ce petit carnet ici qui est assez amusant. Il a été donc c'est un document qui appartenait à un Allemand. C'est ouais. un petit carnet dans lequel un soldat allemand en fait a recopié des formules permettant d'aborder des jeunes Belges dans les balles, notamment dans la région du centre. Donc il s'était fait traduire quelques phrases, et c'est un autre témoignage de l'occupation. L'occupation, c'est pas seulement la répression et les soldats, c'est aussi des liens qui se créent parfois. Alors c'est amusant. Donc il est mis: Mademoiselle, je vous aime, j'ai l'honneur de vous saluer, mes respects à votre parent, annoncez-moi s'il vous plaît, pourquoi évitez-vous moi? Et je vous aime de tout mon cœur jusqu'à l'excès.
Ah oui, c'est vraiment comme un guide de conversation.
C'est ça, il s'était fait traduire des petites phrases qui pourraient lui être utiles pour aborder des jeunes femmes en Belgique.